Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Au cours des deux dernières émissions, nous avons vu qu'être chrétien, c'est vivre conformément aux instructions divines décrites dans la parole de Dieu. L'apôtre Pierre écrit « Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Remarquez bien que dans ce passage, nous découvrons tout un programme, une manière de vivre qui est celle que suivit le Christ. Il nous a laissé un exemple, confirme Pierre, afin que nous suivions ses traces. Paul, lui, a écrit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » L'apôtre Jean ajoute « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Celui qui affirme être chrétien, disciple du Christ, doit donc vivre comme le Christ a vécu lorsqu'il était sur terre. Si nous examinons comment vécurent le Christ et Paul, nous découvrons le mode de vie que doit suivre le véritable chrétien. À aucun moment dans son ministère, Jésus n'observa le moindre rituel temporaire de la loi de Moïse, cette loi qui fut donnée plus tard par l'Éternel Dieu à cause des transgressions du peuple d'Israël. Nous ne lisons pas qu'il ait offert un animal en sacrifice. Par contre, nous lisons qu'il observa non seulement les sabbats hebdomadaires, mais aussi les fêtes annuelles. Pourquoi la plupart des gens qui se disent chrétiens n'en font-ils pas de même? Voyons le récit que nous donne l'apôtre Jean dans son évangile. Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Cette fête avait été révélée à l'ancien Israël pour être observée à perpétuité. Elle est appelée ici « fête des Juifs », car à l'époque, il n'y avait plus qu'eux qui l'observaient. Lorsque ses frères furent montés à la fête, Jésus monta au temple, non publiquement, mais comme en secret. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Jésus ne se rendit pas au temple en compagnie de ses frères, qui ne croyaient pas en lui. Il était présent dès le début de la fête, mais comme les Juifs cherchaient à le faire mourir, il agit avec prudence et ne se montra publiquement qu'au milieu de la fête des tabernacles. Il était encore là pour le dernier grand jour. Il a donc observé les sixième et septième fêtes annuelles de l'Éternel, nous laissant ainsi un exemple à suivre. Il ne s'est pas plié aux traditions que les Juifs avaient ajoutées à la loi après leur retour de captivité, au contraire, il s'y est opposé à plusieurs reprises. Les quatre évangiles confirment que Jésus a pris la Pâque avec ses disciples, attendant même que l'heure soit venue pour se mettre à table. Sachant qu'il était notre Pâque et qu'il allait bientôt s'offrir comme l'agneau de Dieu mettant fin ainsi aux divers rituels et sacrifices sanglants, il remplaça la chair rôtie de l'agneau par le pain, symbole de son corps brisé pour nous, et il remplaça le sang de l'agneau immolé par le vin. Voyons ce que le Christ déclara aux pharisiens. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Comprenons bien que Jésus déclara que le sabbat a été fait pour l'homme. Il ne dit pas qu'il concerne uniquement les Juifs. D'ailleurs, le mot « juif » apparaît dans la Bible alors qu'ils sont en guerre contre Israël. Le premier Juif naquit environ 2000 ans après la création du sabbat. Il s'agit de Judas, fils de Jacob. Le sabbat a été institué au cours du septième jour de la création, et il a été créé, décrété par le Christ lui-même, puisque il est la parole, et que nous lisons à son sujet. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Christ, la parole, est donc le maître même du sabbat, comme il le déclare. Selon le texte original, le mot « maître » est traduit du grec « kurios », qui exprime que le Christ est l'autorité suprême du sabbat. Il en est le contrôleur, le maître, le Dieu, le Seigneur. C'est ce que confirment différentes concordances, dont celle de James Strong. Le Christ nous explique que le sabbat n'a pas été fait pour être un fardeau pour l'homme, mais plutôt pour être une bénédiction. Jésus-Christ, qui est l'autorité suprême, le contrôleur du sabbat, en a-t-il changé le jour? A-t-il déplacé le jour du repos du samedi, septième jour de la semaine, au dimanche qui en est le premier jour? Non, absolument pas. Nombreux sont ceux qui affirment que l'on doit observer aujourd'hui le dimanche parce que le Christ a été ressuscité un dimanche matin. Mais cette affirmation est fausse, elle aussi. Si vous souhaitez obtenir de plus amples détails sur ce sujet, alors demandez notre brochure intitulée « Le Christ a-t-il prouvé sa divinité ?» Que fit Paul lorsqu'il arriva à Antioche de Pisidie, en compagnie de Barnabas, près d'une quinzaine d'années après la mort de Christ? Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après cela, Paul prit la parole et leur annonça le Christ mort et ressuscité. Et lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Et c'est pourquoi Paul leur dit, « Vous vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle. Voici, nous nous tournons vers les païens. » Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. N'était-ce pas là l'occasion idéale pour expliquer aux Juifs et aux prosélytes pieux qu'il n'est plus question d'observer le jour du sabbat, mais que maintenant, ils doivent se réunir le dimanche? Cependant, Paul n'en fait rien, car il sait que le Christ n'a rien changé au quatrième commandement, et que le jour du repos sanctifié par Dieu et que l'homme doit observer est le samedi. Plus tard, Paul rencontra Silas. Lisons ce qui se passa. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux, d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs. N'était-ce pas encore là l'occasion rêvée d'annoncer aux Juifs qui se joignaient à eux et surtout à cette multitude de Grecs que, depuis la résurrection du Christ, le jour du repos est changé du samedi au dimanche? À nouveau, ils n'en disent rien, car un tel transfert n'avait pas eu lieu. Que se passa-t-il à Corinthe? Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait des Juifs et des Grecs. Les Juifs, faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul leur dit « Dès maintenant j'irai vers les païens ». Et, sortant de là, il entra chez un nommé Justus, dont la maison était contiguë à la synagogue. Encore une occasion magnifique d'introduire l'observance du dimanche, mais Paul n'en fit rien. Quelques heures avant son arrestation, le Christ dit à ses disciples « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » L'apôtre Jean a écrit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » L'apôtre Jacques lui explique « Car quiconque observe toute la loi mais pèche contre un seul commandement devient coupable de tous. » Quelle est la base de la communion chrétienne? Bien des gens ont leur opinion là-dessus, mais voyons ce que Jean nous révèle. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez aussi en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Celui qui affirme être chrétien mais qui ne pratique pas tous les commandements tels qu'ils ont été donnés est toujours dans les ténèbres. Par contre, s'il essaye de vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, s'il en fait sa façon de vivre, s'il ne se borne pas à connaître la loi, mais s'il la met en pratique, alors il est en communion avec Dieu et avec Jésus son Fils. Les personnes qui s'assemblent au cours d'un jour choisi par elles-mêmes pour former un groupe ou une église, qui rejette les fêtes annuelles de l'Éternel pour observer des fêtes d'origine païenne, qui écarte tout ou partie des commandements, qui refuse de vivre comme le Christ a vécu, ces personnes-là ne sont chrétiennes que de nom, elles ne sont pas reconnues comme telles par Dieu. Elles oublient que le Christ a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Ces chrétiens-là ne vivent pas en Christ, ils ne feraient pas mal de se souvenir que le Christ a dit en s'adressant à eux, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. »